C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Vant is speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autres choses.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois les redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 31 mai, il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Alain Ducasse, auteur de son autobiographie « On est la somme de nos choix ». Après neuf romans, il vient nous parler de sa vie à travers un joli récit, je me suis régalé à en lire une bonne partie, j'ai hâte de le finir. Et en deuxième partie d'émission, Léo nous a ramené un reportage d'Holt avec la compagnie Les Fugaces qui a joué son spectacle La Ronde. On écoutera ça tout à l'heure. Et nos invités, autant vous le dire, ont beaucoup de choses à le dire. Alors on s'écoute Fribidou et on retrouve Alain dans un instant. Vous êtes bien sur Bartas, c'est parti. De retour au plateau, vous êtes bien sur Bartas, vous êtes bien sur le 107 et c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Alain Ducasse. Bonjour Alain.
Bonjour à vous et puis merci de m'accueillir avec, une deuxième fois.
Avec plaisir, tu étais venu
il y a bien longtemps.
Oh là là. Tu as 9 romans à ton actif et tu publies ton autobiographie « On est la somme de nos choix ». C'est paru chez J'ai d'encre, c'est sorti le 1er avril de cette année. Alors, je l'ai reçu en mode numérique, donc je n'ai pas pu sentir l'essence de ce livre. Et je l'ai reçu vendredi et pas encore eu le temps de tout lire, mais ça m'a passionné. J'en ai lu une bonne partie. Sur un ordi, au désespoir Alain, puisque sans passer par la relire hein, dont tu parles dans ton livre, on y reviendra. Tu mets une chose importante en exergue, c'est l'objet, le livre. T'as toute une histoire bien singulière avec l'objet du livre et l'idée de ton livre est somme toute assez simple.
Tout à fait. C'est parti d'une idée ou d'une analyse, enfin analyse à bien grand mot, soyons modestes, qui est en fait on se construit par des petits bouts. par des petits morceaux, par des petits détails, des objets, des souvenirs, des choix de vie, expériences, des heureuses ou désastreuses. Mmh. Et c'est tout ça qui fait ce que nous sommes. Et cette idée, elle n'est pas uniquement de moi. J'ai trouvé cette idée bien exprimée dans un livre par Joseph O'Connor. Alors, pour ceux qui connaissent les Cranberries, c'est le frangin de Sinéad O'Connor. Et il dit, on est les sommes de ses choix. Et donc, c'est une approche de ce que l'on est, par le petit bout de la lorgnette, très modeste, et qui se justifie par des petites touches de couleurs, des petits riens. Jour après jour, on construit notre personnalité comme ça. Mmh. C'est un peu la base de ce livre, et comme tu l'as vu, pardon, comme vous l'avez vu...
Non, tu peux me tutoyer.
Je veux tutoyer.
Ah oui.
Donc, comme tu l'as vu, malheureusement, sur Internet, tu n'as pas vu la belle couverture.
La couverture, j'allais t'en parler, justement, puisque c'est un peu plus loin. Alors, c'était où ? C'était sur un paragraphe qui était consacré à une ancienne héroïne, Rebecca.
Ah oui.
Et là, je voudrais surtout qu'on parle justement de la couverture, puisqu'on parle de tatou.
Tout à fait.
Qui est
alors, du reste, j'ai amené le livre Rebecca. Oui. Ce livre, il est. Alors, ça, c'est tout autre chose. Hein. Ce livre, il est basé sur le journal de guerre de mon père. Mmh. Et en fait, ce livre, c'est un peu l'origine de notre vie lausérienne. Papa était. Enfin, mon père était réfractaire au STO. Mmh. Il a été. Il s'est échappé, il a fait plusieurs boulots, dont un près du maquis de d'Ardaïès, mm-hmm. Près de Valrhogue, et là il était moniteur instructeur responsable d'une quinzaine de minots et au château de la Salle au pied de l'Aigual. C'était une colonie de gosses réfugiés de Marseille, des juifs, des arméniens et beaucoup d'étrangers qui étaient pas bienvenus dans le régime de Vichy. Mmh. Bref, c'est parti de cette histoire. Bien entendu, j'en ai fait un roman, puisque c'était le principe, et j'ai raconté la vie de cette époque entre le maquis, les milices. Et pour ça, je me suis servi au niveau de l'illustration d'une peinture, d'une huile, d'une amie d'enfance. Alors ça, c'est intéressant. On se connaît depuis qu'on est né. On est quasiment né ensemble dans une maison sans beaucoup d'eau ni électricité, paumée en Algérie. Et on se suit. Elle peint, et donc je me suis servi de ses œuvres, donc des tatous, pour illustrer tous mes livres jusqu'à présent. Et donc j'ai beaucoup de plaisir de parler d'elle. Et elle fait aussi de la céramique. Une artiste.
Voilà. Tu le lis.
Complète.
On est la somme de nos choix. Tu le redis aussi. Si on revient à ton autobiographie, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as, comment dire, ressorti une vieille boîte à photos. Peu comme ça, que tu es venu comme ça, et puis que chaque photo, chaque objet, chaque personne, en fait, devient une petite nouvelle, en fait.
Tout à fait. C'est en fait, je suis parti là aussi de souvenirs. Et c'est toujours intéressant, parce qu'en fait, les souvenirs, c'est quoi ? C'est un peu de la réalité, c'est un peu des rêves, et c'est un peu donc des choses qui sont passées. Et très souvent, on a tendance à voir les souvenirs comme des... disons comme un tonneau qui se vide lentement, alors que c'est plutôt une coupe précieuse, donc la coupe des souvenirs, qu'il faut entretenir, protéger, et je le dis sans vergogne, enjoliver. Les souvenirs, si on se contente de les prendre bêtement, on les oublie. Il faut les enjoliver, les rendre beaux, les rendre attrayants, et donc tous ces livres, c'est des souvenirs qui sont basés sur la réalité. C'est pour ça que j'appelle ça des récits, puisque c'est basé sur une réalité. Et sur cette réalité, on raconte l'histoire telle qu'on veut la raconter, avec les mauvaises expériences, les bonnes expériences, les échecs, professionnels, personnels, affectifs, etc. C'est un peu basé là-dessus.
En tout cas, de ce que j'en ai lu, c'est vraiment un tableau en constante évolution, j'ai l'impression. C'est donc ce qui t'a construit. Mais ça nous invite aussi à réfléchir. C'est-à-dire, il y a une espèce d'universalisme dans ton histoire.
Oui. Alors revenons, pourquoi on écrit?
Avec plaisir.
Ben non, parce que je me suis posé la question, puis il va me poser la question, donc voilà, pourquoi on écrit? Bon, oublions le côté financier, l'histoire c'est de ne pas perdre sa culotte, donc c'est tout, on ne va pas plus loin. Mais en fait, écrire c'est un peu, c'est une activité très personnelle et égoïste, on se fait plaisir, mais aussi altruiste, parce qu'on aime bien nos histoires, parce que c'est écrire des histoires, j'adore écrire des histoires, raconter des histoires, on aime bien que ces histoires plaisent et trouvent un écho et fassent plaisir à quelqu'un. C'est... je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui jouent de la musique. C'est comme la musique. tu fais de la musique pour te faire plaisir, tu composes pour te faire plaisir. Mais si personne n'apprécie, puis si personne n'écoute, tu tombes un peu à côté du truc.
C'est
bon, bah, écrire comme toutes les activités, disons, culturelles, c'est un peu ça. C'est égoïste et altruiste à la fois. Donc, c'est vraiment basé là-dessus. Et c'est ce que j'ai essayé de faire.
Ah oui, en tout cas, tu l'as bien réussi. C'est vrai que je pense notamment aussi au chapitre sur le voile, où tu dis qu'on nous bassine avec ça, mais finalement, on ne devrait peut-être pas la ramener, vu comment nous, on a fait aussi pendant pas mal d'années.
Ah ben... tout à fait. C'est même c'est d'un rigolo. Ouais. Il y a 100 ans, même pas, puisque moi je l'ai connu, donc j'ai pas 100 ans. Moi je suis un, pour ceux qui me connaissent pas, personne ne me connaît, donc je suis un baby boomer, je suis un de la génération 68, donc on y reviendra peut-être, parce qu'on est coupable de tous les maux de la planète aujourd'hui, mais bon, il y a des excuses. Le voile, le port du voile, je me souviens être allé à l'église. Ma mère était catholique, mon père protestant. On y reviendra aussi. Aller à l'église, ma grand-mère allait à l'église régulièrement. Et il y avait, d'abord, il n'y avait pas une seule femme qui était cheveux au vent ou tête nue. Ça ne se faisait pas. Donc elles étaient toutes coiffées, coiffures, chapeaux, voilettes. Personne n'était cheveux au vent, et elles étaient sur le côté droit de l'église, et les hommes étaient sur le côté gauche. Ouais. Et les hommes avaient tous un béret, un chapeau, etc. Donc, le port du voile, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une obligation. Allons même plus loin, ma grand-mère, qui était donc, elle, protestante, plutôt pas croyante, ne serait jamais sortie, elle était de Sanary, au village, sans mettre un chapeau, et le dimanche, elle mettait une voilette. Donc, on continue sur ce schéma. Tu prends les écoles, tu prends toutes les rues des villes, t'as école pour filles, ouais, école garçon, école fille, école garçon. Donc les écoles n'étaient pas mixtes. Moi, j'ai connu la mixité à l'école à partir de ma troisième. Et c'était une super souvenir, parce que avant ça, on est quand même les garçons un peu plus bourrins que les filles, et on a tout d'un coup découvert un autre univers, un univers un peu plus fin, un peu plus délicat. On a appris à se coiffer, à se changer, etc. Donc voilà. Donc oui, il y a des différences de timing, des différences de continent, des différences d'habitude, mais c'est pas si loin.
C'est sûr. Tu parlais de tes parents, là, à l'instant. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est agréable de replonger dans les souvenirs comme ça? Ou est-ce qu'il y a une petite part de tristesse, de nostalgie?
Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, tu les fais revivre. Ma mère est à l'EHPAD à Ispagnac. Mon père y était. Il est décédé il y a 2 ans. Et au contraire, faire écrire leurs souvenirs, ça t'explique ce que tu es toi, et ça les fait revivre. Tu parles de et puis ça fait vraiment partie de ce que je suis. Prenons l'exemple. Ma mère a été excommuniée de l'Église catholique parce qu'elle avait épousé un protestant. Ouais, ouais. Donc ça se faisait à l'époque. Et encore, c'était pas simplement un protestant banal. Mon père était le petit-fils du fondateur du temple de Sanary-sur-Mer. Donc la catholique de Sanary qui épousait le fondateur du temple, ça se fait pas. Donc elle a été expulsée, excommuniée in cathedra. Et puis, pour bien faire, je suis né avec un petit peu d'avance, quelques mois d'avance. Donc ça se faisait pas beaucoup à l'époque. Donc plein de vergogne, ils sont partis en Algérie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à naître en Algérie. Je suis né donc avec trois mois d'avance et tout était bien. Et quand je suis revenu, j'étais un bon poupon qui marchait quasiment alors que j'avais 3 ou 4 mois. Mais tout était sauf. Donc oui, tous ces souvenirs, ça fait ce que tu es. Si j'étais né et si j'avais été élevé dans une famille aisée du sud de la France, avec des cousins, des cousines, du luxe et du confort, je n'aurais pas été la même personne qu'ayant été élevé donc avec ma copine Tatou dans une maison où il n'y avait pas l'eau, il y avait tout juste l'électricité, il y avait bien entendu pas de toilette ni salle de bain. J'allais à l'école quand j'avais le temps et puis ça n'intéressait pas beaucoup ma mère qui avait d'autres chats à fouetter, etc. Donc tu te construis justement par ce genre de choses. Le gamin qui est né dans une maison en Algérie, c'est pas le même gamin avec les mêmes parents, c'est pas le gamin qui est né à Sanary-sur-Mer dans une maison bourgeoise.
C'est sûr. Alors tu as aussi un rapport qui m'a fait un peu sourire, hein, un rapport aux objets. Dans ta collection, tu en fais une revue dans le chapitre consacré au revolver masse. Tu as donc un buste de Mussolini, un Mauser, un pistolet d'ordonnance, une matraille de tranchée, un casque allemand, une collection de couteaux et de soldats de plomb. Tu expliques tout ça et tu finis en disant « Cela ne peut faire de moi qu'un bout de feu bas du front. On garde à vous la main sur le pli du pantalon. Allez, disons-le, un sale militariste. » C'est vrai, c'est étonnant cette fascination.
Tu vois, comme quoi il faut avoir du réalisme. Ouais. Alors, je suis un militariste qui n'aime pas les militaires.
L'institution, en tout cas. Ouais.
Et c'est un paradoxe. C'est superbement résumé ici, par toi.
C'était mot, hein, en
plus. Oui, mais c'est un paradoxe. Ouais. J'ai détesté le service militaire. Je ne supporte pas le défilé du 14 juillet où je trouve que c'est complètement passé, etc. Je ne comprends pas comment la France, qui se veut un pays moderne, progressiste, est le 4e ou 5e vendeur d'armes du monde. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi on dépense, on y reviendra, autant d'argent en budget militaire, etc. Et j'ai d'autres exemples. Je ne comprends pas pourquoi on met la priorité là-dessus plutôt que sur l'éducation ou sur la santé. Et j'ai d'autres exemples. J'ai mon fils qui vit en Norvège, ma fille qui vit en Suède, qui sont des démocraties nordiques, où la priorité très clairement à l'éducation, la priorité très clairement à la santé. Bon, ils sont riches, mais les Norvégiens, c'était des pêcheurs il y a 100 ans, ils vivaient de pêche et de patates. Les Suédois, ils se sont débrouillés en faisant de l'acier, etc. Donc, il y a d'autres schémas que les schémas que nous avons. Et malgré tout, ben, j'aime les couteaux, j'aime les fusils, je n'aime plus la chasse. J'ai aimé, mais je n'aime plus.
Il y a un chapitre.
Ouais. On reviendra alors. Ouais. On reviendra. Mais j'ai aimé, donc je ne vais pas renier mes amours anciennes.
Mais qu'est-ce qui a fait justement que tu as changé d'avis comme ça?
Bah on évolue, hein. Ouais,
heureusement.
Heureusement qu'on ne vit pas dans la tradition. Écoute, j'ai plus envie de. J'aime bien promener le fusil, donc j'aime bien me promener. Et. Me promener sans un fusil ou sans un panier pour amasser des champignons ou pour cueillir des fleurs ou sans être dehors pour planter des patates ou ça je sais pas faire ça me fatigue.
T'as besoin d'avoir quelque chose avec
J'aime bien faire quelque chose. Donc je promène le fusil et aujourd'hui je promène mon fusil, je tire dans les lignées de chenilles, je fais beaucoup de tirs un peu comme la pêche à no kill. Je fais beaucoup de tirs no kill, c'est-à-dire que j'aime bien me promener, je débusque un chevreuil, j'en ai pas beaucoup, mais 2 ou 3 j'en ai débusqué, tu le regardes, tu fais semblant de le viser et puis s'en va. Voilà. Donc, et je trouve mon plaisir comme ça.
Ah, c'est super.
Peut-être qu'un jour j'arrêterai de prendre le permis, mais je pense objectivement que sur les 3 dernières années de chasse, j'ai peut-être tué une grive, peut-être 2, mais j'en suis même pas sûr.
En tout cas, c'est peut-être cette fascination pour les objets militaires, le fait de vouloir être face à l'histoire. Justement, quand on parle des dépenses incommensurables pour les militaires aujourd'hui, etc., est-ce que c'est pas un fait de se souvenir un peu qu'il s'est passé des choses absolument terribles?
Alors, on peut parler d'un autre souvenir, c'est mes grands-parents. mes grands-pères. J'ai eu deux grands-pères qui ont connu la guerre de 14 et la guerre de 40. En 14, le premier a perdu son frère, qui est mort, je ne sais plus, en Ardennes. Et le deuxième a été gazé à Verdun. Ils s'en sont sortis tous les deux. En 40, un de mes grands-pères, celui de Sanary, va savoir pourquoi, j'ai jamais su, a été obligé de se planquer dans le maquis, et donc il était charbonnier, il faisait du charbon de bois à Signe, et il rentrait une fois toute la nuit, une fois toutes les trois semaines, à Sanary voir son épouse et ses deux filles. Mon autre grand-père était devenu, après la guerre, profondément antimilitariste. Il a même participé à des réunions avec Giono, Jean Giono, qui était antimilitariste. Il l'a invité à Marseille pour des conférences, etc. Et d'antimilitariste, il est devenu par la force des choses plutôt militariste. Donc mon père, il a aidé mon père à se planquer et à ne pas aller en Allemagne. Et lui, ça m'amuse parce que c'est attendrissant. Il se baladait le soir avec une craie et il faisait des grands V de la victoire. Pour ça, il aurait pu se faire exécuter pour des traits de craie. Voilà. Donc, antimilitariste, je pense que c'est basé un peu là-dessus. Et mon grand-père a lui aussi transformé ses démons en écrivant sur la guerre. Et il a écrit des bouquins sur les camisards, sur la guerre de 40, sur la guerre de 14, sur les Balkans. Mais il était devenu profondément antimilitariste, et c'était une manière d'expulser ses souvenirs militaires.
D'être face à l'horreur de ces,
tout à fait,
de ces
tout
guerres. À fait. Alors, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Berlin, ville absolument incroyable. On est face à l'histoire, et quelle histoire. Mais toi, tu es allé dans un contexte un peu particulier.
Et c'est je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs.
Berlin.
J'étais à Berlin quelques jours après la chute du mur. Mais vraiment quelques jours, je ne sais plus. Et donc, Berlin-Est était encore complètement vide. Et il y avait un endroit où on passait qui s'appelait Checkpoint Charlie. Et c'est là où on traversait. Et quand je suis passé, je faisais partie, on était une dizaine, une quinzaine, c'était Noël. Et Berlin-Ouest, il y avait les flonflons, la fête, tout le monde buvait, chantait, les enfants, les arbres de Noël, etc. Et puis j'ai traversé, je suis arrivé une grande avenue vide, des grands bâtiments, et c'était gris, mais gris. Il n'y avait rien, il n'y avait personne, tu avais 3-4 trabans qui roulaient. Et puis je me suis retrouvé là, donc je me suis baladé, et j'avais honte. Les gens me regardaient, tu sais, comme si j'étais un extraterrestre, donc ils te regardaient avec un drôle d'œil. Je suis rentré dans un restaurant, je ne comprenais pas l'allemand, ils ne comprenaient pas l'anglais, ni le français. Donc, puis de toute façon, il n'y avait pas le choix, il y avait le plat du jour, il n'y avait rien d'autre. Donc j'ai pris un très bon plat du jour. Et puis, il y avait une petite loupiote, quoi, tu vois, dans le restaurant, c'était gris, il y avait une loupiote qui devait être un 25 watts. Puis, je suis allé aux toilettes, et là, c'était pas du 25 watts aux toilettes, c'était un 12 watts qui s'allumait et s'éteignait quasiment dans la seconde, tu sais, juste pour le temps de viser le trou. Et les papiers, c'était comme j'avais connu en Algérie, c'est-à-dire le papier, c'était du papier journal, mais proprement coupé, tu sais, bien découpé, accroché avec une ficelle. Bon, bien entendu, de toilette à la turque. Et puis je suis ressorti, ils m'ont donné des petits billets de la DDR, des petits billets allemands. Alors les billets allemands de l'époque, c'est pour montrer leur valeur, ils étaient grands comme des timbres poste. Puis je suis rentré, et vraiment, tu vois, un peu triste. Je me suis dit, mais les mecs, ils ont pas... Ça n'a pas évolué. Et je suis arrivé à Berlin-Ouest, est-ce que c'est le même jour ou le suivant, je ne sais plus. Et là, près du mur, tu avais des ubéristes, les ubéristes du Burin, qui étaient déjà au travail, les types de la DDR, ils étaient arrivés, Burin, et ils étaient au pied du mur et ils te louaient le burin pour que tu démolisses le mur et que tu prennes ton petit morceau. Et donc tu leur filais quelques pfennigs pour prendre ton petit morceau. Et prendre un morceau de mur, c'est pas facile parce que soit tu prends la moitié du mur et ça pèse une tonne et tu peux pas, soit tu fais de la poussière de mur et il fallait quand même avoir le beau. Donc j'en ai récupéré 3-4 morceaux. Et puis à côté, tu avais le marché aux puces, donc les types, ils étaient là, ils vendaient la chapka, ils vendaient les étoiles rouges, ils vendaient les uniformes de la DDR, ils vendaient les uniformes de l'armée rouge. Et puis, quand j'ai voulu les payer, donc j'avais mes petits billets de la DDR, tu sais, donc tu leur donnes, et les mecs, ils m'ont regardé, l'air de me dire, on est quand même de l'Est, mais on n'est pas des cons. Donc ils m'ont demandé des vrais Deutschmark, des bons Deutschmark, des gros billets bien lourds, oui. qui avaient de la valeur. Et c'est là où, tu vois, où la politique disparaît, parce que tu as tous les gens qui trouvaient l'Allemagne de l'Est un exemple, ou la Russie un exemple. Et puis quand tu les voyais, tu te disais quand même, drôle d'exemple. Et puis, après, donc ça m'a intéressé, et j'ai quand même vu qu'il y avait 200 ou 300 personnes qui se sont fait zigouiller en essayant de passer de l'Est à l'Ouest. Et de mémoire, je crois qu'il n'y en a pas eu un seul qui a essayé de passer de l'Ouest à l'Est. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Hein. Et les mecs, ils n'étaient quand même pas stupides. Hein. Voilà. Et c'était super, super intéressant et triste.
Ouais, en tout cas, auditeurs, auditrices, si vous avez la chance un jour d'aller à Berlin, c'est une ville absolument incroyable, vraiment.
Et puis, alors, j'y suis retourné et c'est évident que Berlin est une ville magnifique. Aujourd'hui, une ville vivante, moderne. C'est pas pour rien que des gens aussi talentueux que David Bowie sont allés faire un album absolument inoubliable à Berlin. Donc c'était vraiment une ville, c'est vraiment une ville. Et je l'ai vu comme ça aussi. Et de l'autre côté, ça a vite avancé. Par contre, je comprends, il y a un film que j'ai adoré, Goodbye Lenin.
Goodbye Lenin.
Et j'ai compris la dame. Qui vivait, qui avait besoin de ses cornichons dégueulasses, qui avait besoin de son papier toilette marron, et qui pouvait pas comprendre et supporter le. Donc je comprends, mais en dehors de Goodbye Lenin, je pense que c'est quand même la vie était assez dure pour eux.
Tu m'étonnes. Alors il y a un chapitre, on l'a abordé en intro sur la reliure. Et tu dis, restons simples, j'écris, c'est déjà suffisant. Je ne vais quand même pas embourgeoiser mes romans. La reliure, c'est pas assez de mode. Alors c'est assez drôle, mais tu penses pas que tes livres mériteraient d'être reliés ?
Non. c'est une habitude un peu archaïque. J'ai commencé à faire de la reliure, hein, moi-même. Donc j'ai fait ça.
T'en as fait un, je pense.
Oui, un. Un. Minable, j'étais obligé de le refaire, il partait en vrille, c'était nul. Mais j'aimais bien l'odeur, la colle, le cuir, etc. Mais objectivement, je ne suis pas un écrivain. J'écris, mais je ne suis pas un écrivain. Donc, je ne vais pas me prendre la grosse tête et relier mes bouquins. Ça n'en vaut pas la peine. Ils sont beaux, ils sont comme ils sont. Et puis, c'est quand même aussi passé de mode. J'ai vécu en Italie. Et les maisons bourgeoises achetaient, je te promets, hein, ils achetaient des livres au maître pour remplir les bibliothèques. Donc ils avaient, dans les maisons bourgeoises, tu avais une grande bibliothèque qui tenait tout le mur, et puis tu avais 4 bouquins, 5 bouquins. Donc il y avait des libraires qui vendaient des bouquins reliés en cuir au maître, et tu remplissais ça, etc. Des livres illisibles, même de très beaux livres, mais que tu lisais pas, du Thiers, du Chateaubriand, etc. Génial, mais personne ne le lisait, donc voilà. Donc je me suis dit, non, je vais pas faire ça. Mais j'ai gardé des livres. Les seuls que je garde et que j'ai une autre passion, c'est pour le Canada. Et donc je m'étais passionné pour un écrivain qui s'appelle James Oliver Curwood, qui est en fait un Américain qui a écrit au Canada.
Tu le dis
ouais.
Pareil.
Ah ouais, pareil. Le mec, il a jamais vécu là-bas. C'est comme il y en a un autre. J'ai oublié le nom, bon, ça va revenir, qui a jamais vécu là-bas. Bref, et j'adorais ça, et donc j'ai relié ces bouquins. C'était les chasseurs d'or, les beaux Mounty avec la veste rouge.
D'ailleurs, sur ton premier canif, il y avait un Mounty.
Voilà, et du reste, tout à fait, très bon souvenir. J'ai retrouvé au fond d'un tiroir un canif avec un Mounty que j'ai gardé précieusement. Alors, pourquoi le Canada ? Là aussi, il faut être modeste. Pourquoi ? Ben, c'est probablement le premier livre qui a dû me tomber entre les mains. Si ça avait été un Jules Verne, j'aurais probablement voulu faire de la spéléo ou aller sur la Lune. Ben, c'était un livre sur le Canada. Voilà, c'est tout.
Simplement, les passions naissent de pas grand-chose parfois. Hein. Tu es publié chez J'ai d'encre. D'ailleurs, si je ne m'abuse, tous tes livres sont publiés chez J'ai d'encre. Qui est-elle, cette maison d'édition, et comment est-ce que l'aventure a commencé avec elle ?
Écoute, au début, j'étais plein d'ambition. Donc, j'ai envoyé tous mes manuscrits à la terre entière. Et il y en a deux ou trois qui m'ont répondu gentiment, en disant peut-être, mais pas aujourd'hui, etc. Et J'ai d'encre est une maison d'édition. Ils sont tout petits. Ils distribuent les livres, ils les font. Ils font pas du dépôt dans les librairies comme tous les autres. Donc c'est vrai qu'il y a moins de distribution, mais ils m'ont accepté et depuis je suis fidèle. Ils font un excellent boulot. Et on en parlait tout à l'heure, mais un manuscrit qui passe entre les mains d'un éditeur, il change de vie. La mise en page, l'écriture, la fluidité du texte, les tournures. Et donc, je pense que c'est irremplaçable. Hein. Et quand je relis mes manuscrits après, a posteriori, je les trouve ennuyeux. Tu as chopé sur les phrases, tu as chopé sur les mots. Et quand ils passent entre les mains de l'éditeur, c'est magnifique.
J'ai hâte de lire la version papier parce que je me suis déjà régalé en lisant la version que tu m'as envoyée. Tu abordes plein de choses dans ton livre. Est-ce que il y a un chapitre, une histoire comme ça qui t'a marqué particulièrement où tu t'es dit ça, je suis vraiment content de l'avoir écrit?
Je pense, parce que c'est une vérité assez fondamentale. J'ai connu mai 68 dans trois pays différents. J'ai connu mai 68 en 67 aux États-Unis où j'étais écolier et j'ai passé mon bac aux États-Unis. J'avais une bourse d'études. Hein. Et là, c'était les beatniks. Les hippies, Flower Power, Peace and Love. Et je voulais rester. Honnêtement, j'étais content, je voulais rester. Manque de bol, c'était l'époque de la guerre du Vietnam. Et pour rester, il fallait accepter. Donc j'aurais été pris à la fac, sans problème. Sauf que tu étais draftable. Tu pouvais être recruté. Enfin non, c'est pas. En tant qu'étranger, tu étais officiellement envoyé au Vietnam.
C'est fou.
Tu étais envoyé. Tu finissais tes études et ensuite tu leur devais 2 ans. Donc j'ai préféré rentrer.
Ah oui, je peux comprendre.
J'avais pas envie du draft. Hein? Ensuite, je suis arrivé en 68 et donc à Aix, à la fac. Et là, c'était un choc. J'arrivais d'une école. Honnêtement, les écoles américaines, c'est plus beau que la fac de Cambridge. Ouais. Ils ont des salles de cours énormes, ils ont des terrains de foot qui sont plus grands que le terrain de foot de Florac, ils ont des terrains de basket qui sont plus grands que celui de Limoges. Tu peux apprendre tout. Tu peux faire dans le lycée, tu fais de la mécanique, tu fais de la bijouterie, tu fais de la spéléo, tu fais des matières classiques. Moi, j'ai passé mon bac, entre guillemets, donc high school diploma, avec du français. Non, pardon, j'avais pas le droit.
Oui, heureusement.
J'avais pas le droit.
Avec de l'anglais, avantageux.
Avec de l'anglais, l'histoire anglaise, que je me trompe pas, espagnol, et maintenant j'arrive au fondamental. Je me suis dit, il faut apprendre à écrire, donc déjà là. Donc j'ai typewriting, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, donc pour écrire sur une machine, déjà je voulais écrire, tu vois. Donc typewriting, et le dernier, je te le donne en 1000, bijouterie.
Et bim.
Et avec ça, j'ai passé mon bac.
C'est génial.
Et ça va très bien. Et ça va très bien. Après, tu te spécialises donc dans les facs. Après, tu as les grands. Et j'avais comme co-locataire, parce qu'on était tous logés ensemble, un mec. Et ça va t'intéresser. On partageait notre chambre avec Ry Cooder. Tu connais Ry Cooder? Non, c'est le, un des bluesmen les plus connus. Il a travaillé avec un vieux qui a travaillé avec les Rolling Stones. Il a travaillé avec Wim Wenders. Il a fait des films avec Wim Wenders, Ry Cooder. Il a participé à un film sur des musiciens blues de Cuba. Bon, bref. Et donc, c'est avec lui qu'on partageait. Et ensuite, je suis arrivé à Aix, et là, c'était manif, AG.
Autre ambiance.
Oh là là, c'était épouvantable. On est passé, tu sais, des slogans géniaux, peace and love, etc., des pavés sous la plage. Ça fait rigoler, mais ça va pas plus loin, quoi. Donc bref, ça m'a gonflé. Le seul slogan dont je me souviens que j'avais adoré, c'est « J'ai quelque chose à dire, mais je ne me souviens plus quoi ». Et celui-là, je l'avais trouvé génial. Bref, après, donc ras-le-bol, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti en Angleterre. Là, il fallait trouver de l'argent pour vivre, donc je me suis fait coursier. Donc pendant 3 ans, j'étais coursier. Et puis voilà, j'ai passé une école de commerce là-bas, à mi-temps, en travaillant le soir. Et puis j'ai travaillé dans une agence de pub, etc. Et donc... Si tu veux, j'ai vu 3 civilisations, un problème de base, les jeunes qui veulent s'émanciper, à l'américaine, à la française et à l'anglaise. Et les anglais, ça fait les Rolling Stones, ça fait les Beatles, ça fait Carnaby Street, ça fait Marie Quant, ça fait Vidal Sassoon. Les américains, ça fait quand même les hippies, les beatniks, etc. Et nous, ça fait...
Ouais, c'est Cohn-Bendit.
Cohn-Bendit et Jesmar. Et tu vois, je préfère quand même, c'est plus sexy, la mini jupe de Marie Kant que le discours de Cohn-Bendit et Jesmar. Et c'est vraiment 3 visions différentes, c'est vraiment fondamental. La vision américaine, ça explose. La vision anglaise, pragmatique. Pragmatique et tout, on se démerde. Et la vision française où tout est normé, des textes, des âgés, des défilés, etc. Et la violence. Et en Angleterre, c'était avant, mais quand je suis arrivé, il n'y avait plus de violence. Bon, voilà. Donc j'ai pu aller en 69 à Hyde Park voir les Rolling Stones. J'ai pu voir Leonard Cohen à l'Albert Hall, etc. Donc super. Sans argent, parce que j'étais coursier, mais ça, on arrivait à le faire.
Et encore beaucoup de souvenirs. Alors, j'ai vraiment hâte de le finir, parce qu'il nous reste encore quelques pages à lire. On est la somme de nos choix. C'est paru, c'est Jet d'encre. C'est disponible sur les plateformes style Fnac.com. Je mets le lien, évidemment. Et il est disponible aussi à Hispaniac, c'est ça, hein?
Tout à fait, tout à fait. Donc, ils sont charmants. La librairie qu'il avait à Florac n'est plus là. Donc, à Hispaniac, on peut l'avoir. Mais autrement, si on le commande... Il est là dans les jours qui viennent.
Un 10e roman en...
Alors celui-là, c'était le 10e, il y en a un 11e.
Oui,
c'est le 10e.
Autobiographie.
Alors oui, oui, c'est important.
Mais ça, 9
ça c'est des récits.
Ouais.
En fait, j'ai 8 romans, des nouvelles, un livre de nouvelles et un livre de récits. Alors, nouvelles, récits, c'est quoi la différence? J'ai longuement... il y en a une, je me suis dit, c'est quoi? Alors, la nouvelle, c'est... très fondamentalement fiction. Le récit, c'est très fondamentalement récit. Maintenant, tu mélanges un peu tout ça. D'un côté, tu secoues, il y a plus de fiction. De l'autre côté, tu secoues, il y a plus de récits, plus de vérité et d'historique. Donc, on est la somme de ses choix. C'est des récits, donc c'est basé sur l'histoire. Les nouvelles, c'est plus
et donc
la
un,
fiction.
Un 11e livre, en tout cas.
Tout à fait.
Allez.
Alors là, il sera basé... ben voilà, on parlait tout à l'heure de Tatou, de l'Algérie, sur mon enfance en Algérie. Je terminerai là-dessus parce que c'était intéressant. On n'était pas pieds noirs, donc on n'a pas eu le choix des pieds noirs d'abandonner d'où on a pu partir parce qu'on n'était pas de là-bas, on n'était pas accident. Mais j'ai quand même vécu leurs difficultés. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal Je ne sais pas pourquoi, à comprendre ces gros blocs. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais dans une école, et vraiment une école, hein. Il y avait un tiers de blacks, un tiers de mexicains et un tiers de grey boys. Les grey boys, on n'appelait pas les blancs, hein. Les noirs, ils nous appelaient les grey, les gris. Voilà. Et toutes mes études aux États-Unis, c'était un tiers, un tiers, un tiers. Et quand je me rappelle de mon école en Algérie, c'était exactement la même chose, l'école primaire. C'était exactement la même chose, c'est-à-dire que c'était même pire, parce qu'il y avait les musulmans. Ensuite, il y avait les kabyles. Ensuite, tu avais les juifs. Ensuite, tu avais les espagnols, les italiens, des français. Et tout ça, dans l'école primaire, on était tous ensemble. Et on ne se foutait pas sur la tronche, hein, jusqu'en 54-56. Et puis après, je suis allé au lycée. Et alors là, le lycée, tout d'un coup, eh ben, les musulmans, les kabyles, ils avaient disparu. Tu n'avais plus que des blancs. Et donc le problème, c'était là, quoi. On n'a pas su transférer ce qu'on arrivait à faire en école primaire en secondaire. Et après, bien entendu, puis de toute façon, c'était dans l'histoire, le colonialisme était terminé et c'était tout à fait logique.
C'est sûr. En tout cas, auditeurs, auditrices, on est la somme de nos choix. C'est ton autobiographie. C'est absolument génial. Précipitez-vous-y. Merci beaucoup, Alain.
Et merci de m'inviter. Et j'espère te revoir pour le prochain livre.
Avec grand plaisir.
Et bonne lecture à tous.
À très
merci.
Bientôt. Au revoir.
Deixa eu tomar aqui. colorida saia. Tomara que suba, 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 tomara que suba.
Léo a rencontré les deux co-directrices de la compagnie Les Fugaces présentes au Festival d'Olt pour leur spectacle La Ronde. L'une d'elles est la metteuse en scène et l'autre la comédienne en solo du spectacle. Eh bien, on les écoute, c'est parti.
Eh bien, je m'appelle Cécile et il y a Laura en face de moi. Et on est la compagnie Les Fugaces. On est une compagnie de théâtre en espace public. On travaille beaucoup en déambulation. Et on travaille sur le théâtre de texte. On crée des spectacles avec des personnages qui parlent et qui racontent des histoires.
Tu tiens quel rôle principal dans la compagnie ?
Eh bien, on est toutes les deux co-directrices artistiques de cette compagnie. On est tour à tour selon les spectacles comédiennes, metteuses en scène et ou autrices. Et donc là, dans la création qu'on a présentée au Festival d'Olt, moi, je suis comédienne. Et Laura, ben, tu peux dire si tu veux.
Bonjour, je suis Laura. ben, moi, dans le spectacle, j'ai écrit et mis en scène tout ce spectacle.
Depuis combien de temps il tourne le spectacle ?
Eh ben, le spectacle, il a eu la malchance d'avoir été créé pendant le temps du Covid. Donc il devait sortir en début de saison d'Art de rue, donc en avril 2021. Mais il a été décalé fin 21. Donc il a joué quelques fois en septembre-octobre 21. Puis après, ça a joué plusieurs fois l'année dernière, une douzaine de fois, un truc comme ça. Et cette année, on a la chance de le jouer 20 fois.
C'était votre première fois en Lozère ?
Et non, c'était la première fois pour ce spectacle qui s'appelle La Ronde. Mais c'est la deuxième fois qu'on vient avec la compagnie parce que notre dernière création, Vivant, qui est aussi un spectacle en déambulation, mais avec 5 personnages en simultané qui se croisent. Et pour le coup, c'est Cécile qui l'a mis en scène et qui l'a coécrit avec une autre autrice qui s'appelle Hotschmitter. Et moi, je joue dedans avec 4 autres comédiens. Et on avait fait nos toutes premières en 2019, ici, juste avant le Covid pour le coup.
Et on est venu, avant de le jouer, on est venu en résidence quelques mois avant, accueilli par le Road Boy Crew à Chasse-Radès. On avait fait une semaine de résidence à Chasse-Radès avec... Non, on avait fait de la résidence, on avait fait ce qu'on appelle nous des crash tests, ça veut dire des représentations en public du spectacle en cours de création pour le tester, parce que nos formes, elles sont tellement reliées à la présence du public qu'on ne peut pas uniquement les répéter en vase clos, on a besoin de les confronter au public et puis de voir qu'est-ce qui marche moins bien, tout ça. Donc on est venu, en 2019, on est venu 2 fois. Une fois en résidence et une fois à Olt pour jouer.
Et du coup, votre compagnie se concentre exclusivement sur le théâtre de rue ?
Ouais. En fait, on a créé la compagnie en 2007. Et en 2007, on était déjà avec une forme dans la rue qui était en fixe, mais qui était déjà... notre grande question, ça a toujours été comment on fait pour poétiser des espaces communs, les espaces du quotidien que tu traverses tous les jours, comment on vient y mettre de la poésie. Alors, en 2007, c'était vraiment très, très poétique. C'était vraiment un montage de textes d'auteurs contemporains, des textes qu'on avait écrits. Le montage était vraiment... Oui, vraiment très déconstruit, on va dire, très, très morcelé. Et puis après, très rapidement, on a voulu adapter le roman de Lola Lafont qui s'appelle « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce ». Et très rapidement, on s'est dit « Oh, c'est super, on va le faire en déambulation ». Et dès qu'on a découvert l'ampleur des possibilités d'emmener du public avec nous, de pouvoir recréer in situ systématiquement là où on va être programmé, puis d'emmener les gens avec nous dans une aventure. En fait, nous, c'est un truc qu'on aime bien dire, puis on aime bien vivre ça. C'est emmener les gens avec nous, vivre ouais, une aventure. Et on trouve qu'en avançant, en bougeant tous ensemble, tu rends le spectateur actif, il est actif avec toi, et il y a une espèce de donnant-donnant qui se fait entre la comédienne et puis le public.
C'est sûr que vous êtes totalement approprié le Blémard. Comment dire, le spectacle, il s'est incorporé extrêmement bien dedans. Je ne sais pas où, s'il y a eu des problèmes à un moment pour avoir certains lieux, mais du début à la fin, ça circule bien, les endroits sont bien choisis.
Du coup, oui, on fait toujours un repérage en amont. Et alors, je te laisse imaginer comment ça... C'est un autre casse-tête pour le spectacle précédent, Vivant, qui a cinq parcours en simultané dans les 3-4 rues du Blémard. Cécile, elle s'est arrachée les cheveux. Pour la ronde, c'est sûr que c'est un peu plus facile. Ceci dit, comme il nous faut toujours un endroit central, et que cet endroit central, c'était aussi un endroit central du festival, là où il y a deux bars, toute la question était de savoir à quel moment on allait jouer, à quel moment ça allait être le moins dérangeant, comment s'y prendre pour que ce soit le plus silencieux, pour qu'on perde pas la moitié du public qui s'arrête au bar non plus à ce moment-là. Donc il y avait cette première contrainte. Et puis après, on fait en sorte que les déplacements ils soient pas trop longs pour garder une rythmique dans le spectacle. Et les lieux qu'on a fini par trouver, au final, il y a juste l'endroit du banc, mais qui finalement était très bien, qui n'était pas celui qu'on avait imaginé au départ. Mais voilà, en tout cas, l'équipe du Festival d'Olt, ils étaient super. Ils nous ont aidés à vraiment trouver toutes les possibilités et à rentrer dans notre délire aussi, parce que personne de l'équipe ne l'avait vu. Donc c'était aussi pas si simple de se projeter dans qu'est-ce qu'il nous faut, quel endroit fonctionne, quel endroit fonctionne pas. Par exemple, au-dessus de la salle des fêtes. Donc comme on était venu en 2019, moi je voyais bien tout autour, là, le parcours qu'on a fait, je voyais à peu près les endroits. Mais à un moment donné, au festival, ils m'ont proposé de monter la rue qui va à l'EHPAD. Et du coup, moi, je suis pas revenue en repérage. J'ai fait ça sur Google Street. Et sur Google Street, tu peux pas vraiment voir que ça monte ou que ça descend. Donc moi, j'ai failli dire OK. J'étais vraiment à pas grand-chose de dire, bon, ben, si ça le fait pour vous à cet endroit-là... En remontant encore plus, il y avait un banc, donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Puis finalement, en réfléchissant, mais même pas à cause de la montée, je me suis dit, non, ça fait trop de métrage. Puis en fait, on s'éloigne trop quand on est au banc. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ah ouais, non, mais heureusement que j'ai dit non, parce que c'était pas possible, ni pour Cécile, ni pour le public. Enfin, c'était trop fastidieux pour rien. Il se joue pas assez de choses pendant les déambulations pour que, tu vois, tu te tapes une si grosse montée pour redescendre ensuite, quoi.
Je me demandais quelle est la part d'improvisation dans le spectacle.
C'est une bonne question. Alors, comment je peux répondre le plus justement possible? Nous, on essaye, on accorde une grande importance au texte, à l'écriture du texte, et en termes de structure dramaturgique, c'est-à-dire de comment l'histoire elle évolue, de rythme à l'intérieur de cette évolution, et de la langue aussi. Donc, en premier lieu, notre travail, il va être de restituer le texte. Et au moment de la représentation avec le public, c'est comme un peu un exercice d'équilibriste. Et il y a une part d'impro, certaine. Parce que finalement, quand les gens sont là, des fois, il y a des répliques qui sortent pas exactement dans l'ordre que c'est écrit. Il y a des adresses, ce qu'on appelle des adresses au public. Et puis, selon la dynamique du public, on va avoir besoin de... je vais avoir besoin, moi, en jeu, de rajouter des choses pour les emmener d'une certaine façon. Donc, il y a une part d'improvisation et dans les actions aussi. Mais c'est pas central, quand même. On travaille, parce que ce soit l'écriture textuelle ou l'écriture spatiale, c'est-à-dire qu'une fois que le repérage est fait, quand on arrive ici, on refait tout un tour, on se demande quelles images on veut, où est-ce que je dois me mettre pour que le public y voit quel cadre, voilà. Et si je fais bien mon travail, si j'arrive à bien faire mon travail, normalement j'ai pour mission première de restituer quand même le mieux possible ces deux écritures-là qui sont textuelles et spatiales. Mais oui, il y a une part d'impro évidente inhérente au fait de jouer en espace public. Et en fait, c'est ça qu'on découvre avec les années au fur et à mesure de notre travail, quoi. C'est cette espèce d'équilibre dans notre manière à nous de créer les spectacles. Il est où l'équilibre ? Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui font beaucoup plus d'impro que nous dans leur travail. Et nous, on vient plutôt de l'écriture et de quelque chose de très, très maîtrisé, de très... Voilà. Et en même temps, je trouve maintenant, ouais, avec les années, que c'est aussi d'accepter et de valoriser et de comprendre l'articulation entre les deux, entre l'écriture et l'impro, comment ça marche dans notre théâtre à nous, quoi.
Et puis le rapport avec le réel, la représentation que tu as vue ce matin, avec on est sur la place de l'église et il y a deux fois de suite les 12 coups de midi, et après il y a eu la sirène des pompiers, enfin l'alarme, la sirène du mercredi là, qui était un samedi. Et comment Cécile, par exemple, moi j'étais dans, comme je suis à la mise en scène, je suis extérieure pendant qu'elle est en train de jouer. J'essaye, peut-être tu m'as vu sillonner un peu à droite, à gauche pendant les scènes, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit le moins impactée par des choses qui seraient pas cool. Tu vois, ce que moi j'estime que si je suis en train de jouer, ça va venir jouer contre et ça va pas jouer avec. Donc je vais voir les gens au bar pour leur dire ouais, y a quelqu'un qui vient jouer, qui est toute seule devant 150 personnes. Voilà, est-ce que vous pouvez faire plus silencieux ou chuchoter, tout ça, par exemple. Ou ce matin, il y avait des gens avec des chiens. J'essayais de retrouver les propriétaires des chiens qui se baladaient sans laisse et qui, j'avais peur qu'ils viennent dans ses jambes et puis enfin juste faire chier la comédienne, quoi. Mais par contre, les 12 coups et la sirène, je peux rien y faire. C'est pas prévu. Enfin, j'aurais pu poser la question. J'ai complètement zappé de poser la question quand on a prévu le festival. Je savais qu'on jouait sur la place de l'église. C'est pas la première fois que ça nous arrive qu'il y ait une église qui fasse ses 12 coups, quoi. Mais ou même l'Angélus, on a eu une fois. Mais là, j'ai complètement zappé. Et évidemment, quand ça a sonné à midi, je me suis dit, oh, ben oui, ça va sonner deux fois. Et puis après, voilà. Et après, en fait, je regardais Cécile et j'étais là. Bah, elle fait avec. Et ce qui, moi, me mettait en stress pour essayer de faire au mieux pour le spectacle, finalement, elle a intégré le réel parce que c'était tellement énorme que, de toute façon, elle n'avait pas tellement le choix. Mais moi, j'ai senti, après, tu dis si je me trompe, mais que t'as accepté que ça faisait partie de ce qui se passait. Et sa réaction aurait pu être de plein de manières. Ça aurait pu venir... vraiment, merde, je peux pas jouer ma scène, là. Ça peut venir complètement te confronter comme comédienne, ça peut venir t'amuser, t'as envie de vraiment partir en impro là-dessus, ça peut venir raconter quelque chose. Enfin, moi, ce que j'ai senti, c'est que Cécile, elle prenait le parti que ça vienne sur-raconter quelque chose. Et il y a des gens du public qui m'ont dit ce matin, oh, génial, enfin que eux ils avaient compris que ouais, il y avait comme pas une sentence divine, mais comme il y avait l'appel de quelque chose de plus haut, de plus noble, qui venait résonner pour elle à ce moment-là. Et moi, sur le coup, j'étais tellement stressée que j'ai pas du tout vu ça, pour être honnête. Mais j'ai juste vu que elle s'en sortait avec. Donc ça fait partie de l'impro pour moi aussi.
C'est sûr. Même là, ce soir, à la reprise de cet après-midi, avec la pluie, c'est sûr que le réel vient, tout un tas d'éléments du réel viennent nous amener à improviser, à réagir avec. Et il y a pareil, encore une fois, un jeu d'équilibriste entre... On dit ce que tu dois prendre et ce que tu dois pas prendre dans ce qui se passe autour, ce qui doit influer et modifier un peu ta partition, ton parcours, pour venir faire avec le réel, et voilà. Et ce qu'il faut pas prendre, parce que c'est plus fort que toi, ou que ça fait faire un pas de côté trop grand à l'histoire, et qu'à ce moment-là, ta mission d'acteur ou d'actrice, c'est de garder le cap de ce que t'as à jouer. Donc ça, c'est avec les années, quoi. Avec les années, puis même encore aujourd'hui, des fois, on y arrive, des fois, on y arrive moins bien, quoi. C'est ça qui est fascinant et déstabilisant avec la rue, c'est que c'est chaque représentation, c'est un nouveau spectacle, quoi, une nouvelle pièce, quoi.
Je me demandais du coup, c'est quel membre de l'équipe qui est le plus stressé pendant le spectacle?
Pendant, c'est elle.
C'est moi. Avant, il y a un battle. Des fois, c'est elle, des fois, c'est moi, des fois, c'est pareil. Moi, j'avoue que quand on joue la ronde, quand c'est ce spectacle, j'essaye de pas trop dire que je suis stressée avant. Là, je l'ai dit aujourd'hui. Mais il y a des fois où je suis hyper stressée, je le dis pas. Bon, je pars du principe que ça se voit, donc il y a pas besoin de le dire, et que je vais pas lui rajouter du stress. Parce qu'il y a des fois où t'es pas trop stressée, je me dis je vais pas lui inventer du stress qu'elle n'a pas. Puis quand elle est déjà stressée, je me dis je vais pas lui rajouter. Mais non, pendant t'es dans l'impuissance, quoi. Moi, je peux m'agiter un peu à droite à gauche pour essayer de faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, de faire au mieux pour qu'il y ait pas de choses qui viennent jouer contre elle. Mais après, j'ai plus les clés, j'ai plus la main, c'est comme j'ai l'impression c'est comme quand t'as fait un enfant, quoi. Après il y a un moment il fonctionne tout seul, quoi. Et toi tu t'as beau dire hey, moi j'aurais pas fait comme ça, ben, il s'en fout. Il fait sa vie. Et du coup voilà, il y a des moments où je suis là, ah c'est marrant, c'est pas ça qu'on avait dit, ou voilà, tout à l'heure les fichiers qui partent pas, ça me met dans une pression qui est insurmontable. J'arrive pas du tout à baisser la pression, je suis hyper en colère, je suis hyper frustrée, je me dis que j'ai foutu tout le monde dans la merde en faisant ce spectacle, que le système il est pas assez fiable, que du coup il faut qu'elle improvise tout et n'importe quoi, parce que voilà, on a régulièrement des soucis.
Que ça fait briser un mur construit en, du coup, entre la technique et le spectacle, et... mais c'est bien passé.
Oui, mais moi je pense que... Enfin, puis là, c'était des conditions très particulières, quoi. Il flottait de ouf. En fait, on aurait juste dû s'arrêter. Enfin, on n'aurait pas dû s'arrêter, on a bien fait de continuer.
Franchement, je savais pas.
Moi, je trouve qu'on a bien fait de continuer. Mais du coup, ça inclut ça aussi. Et de toute façon, à ce moment-là, les gens... Mais moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que les gens y voient. En rue, il n'y a pas du tout la notion de quatrième mur comme il peut y avoir dans la salle, où il y a un degré de maîtrise absolu de tous les paramètres. Nous, c'est pas comme ça. Et en fait, c'est ça qui, nous, c'est ça qu'on aime aussi, c'est que ça met l'équipe artistique et technique à un endroit beaucoup plus proche des gens, en fait, parce que tout d'un coup, on est avec eux. Et quand ils flottent comme ça, pour moi, c'était complètement ok, quoi, de pouvoir m'adresser à elle et de lui dire on continue, on arrête. Ok, il y a un bug technique. Comment on appréhende le truc? En tout cas, pour revenir à ta question, normalement, quand même, quand tu te mets à jouer, nous, les comédiennes et les comédiens, à partir du moment où tu commences à jouer, le stress, il doit plus être là. Ça arrive, mais normalement, si on fait bien notre travail, il n'y a plus de stress. Donc après, ça reste pour l'équipe technique et puis pour la mise en scène, où eux, les pauvres, pendant, c'est rude, quoi. Parce que, et puis, quand tu joues, il y a quand même un truc d'adrénaline qui fait que, je sais pas comment dire, le stress que tu as eu avant, il est évacué par la représentation. Alors que quand tu es en mise en scène, et c'est une posture que je connais aussi, du coup, il n'y a pas ça. Donc tu gardes tout ton stress, et puis à la fin de la représentation, t'as pas cette espèce de... On pourrait comparer ça un peu, c'est un peu trivial, mais on pourrait comparer ça un peu à la jouissance, quoi. Il y a un truc qui... Quand tu joues, il y a un truc qui sort, quoi. Qu'il n'y a pas à la mise en scène. Donc c'est des rôles plus ténus, plus difficiles, en vrai, je trouve.
En parlant de mise en scène, vous êtes du coup très bien adapté au terrain, et dans les allers-retours qu'on fait, il y a la place de l'église va changer, des nouvelles pancartes vont apparaître. C'est pas trop difficile à synchroniser, ne pas arriver trop tôt, ne pas arriver trop tard?
Là, on a eu la chance d'être accompagné en régicite par Servant, qui a fait toute la création et qui était régisseur jusqu'à l'année dernière pour notre compagnie, donc pour ce spectacle aussi. Donc là, c'était la chance d'avoir quelqu'un qui est hyper efficace, hyper rapide, qui du coup n'a pas besoin d'être briefé vraiment. Donc moi, j'étais très surprise. Il a pu tout mettre, parce que pour le coup, entre l'arrêt sur l'église et la scène chez les parents d'Audrey, il y avait vraiment très peu de métrage, et normalement il y a un peu plus que ça, et donc et déjà c'est assez court pour pouvoir mettre quelques affiches avec marqué non. Et voilà, à chaque fois que j'ai devancé le public, moi, dans le but de lui dire arrête tout, ils arrivent. Et en fait, à chaque fois, il était là, il attendait. Genre, il avait terminé, quoi. J'étais là. C'est la première fois que ça arrive. En général, on demande à... Soit c'est moi qui le fais. Et là, c'est une petite tannée quand je suis toute seule, parce que c'est à l'oreille. J'essaye d'entendre où ils en sont, et puis des fois j'arrête trop tôt, j'aurais pu mettre plus d'affiches, ou des fois c'est arrivé une fois où je suis encore en train d'afficher, donc j'enlève ce que je suis en train de faire et puis je me casse pour pas qu'on me voit. Mais et puis c'est arrivé, enfin des fois c'est des gens en technique qui nous accueillent que je dois briefer, et puis tu tombes des fois sur des gens plus ou moins rapides qui connectent plus ou moins avec ton idée, et voilà, ça aussi c'est un truc que tu maîtrises pas. Une fois que j'ai expliqué, il se passe bien ce qui se passe pendant la reprise, quoi.
Oui, en tout cas c'est pas le rythme du spectacle qui est ralenti, c'est l'installation qui va être amoindrie. C'est-à-dire, moi, de toute façon, je déboule avec mon public quand c'est le moment de débouler, et ça, l'installation s'arrête avant que j'arrive, quoi. Donc, c'est ça la dimension d'adaptation.
Si on parle un peu du fond du spectacle, le point de base, c'était l'idée du Front National, ou c'était plus l'idée de l'harcèlement scolaire ?
Je crois que l'idée de base pour moi, c'était la question du groupe et du rapport à la haine. En fait, c'était vraiment ça. Okay. Il y avait une envie de se dire le rapport au groupe, l'inclusion, l'exclusion et le rapport à la haine qui arrive très très vite.
Et du coup, pourquoi avoir choisi ces histoires du Front National et du harcèlement scolaire pour parler de ce sujet ?
En fait, ça venait croiser deux thématiques qui me sont personnelles. Moi, mon premier vote à moi, c'était vraiment en 2002. Enfin, c'était vraiment cette élection-là. J'avais 18 ans, j'avais pas l'âge du personnage. Lou, elle a 16 ans, elle a pas encore le droit de vote. Mais moi, c'était vraiment mon premier vote. Et ce que j'ai écrit dans le texte, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est vraiment... on était une génération à qui on avait pas mal dit voilà, qu'on avait le droit, mais surtout le devoir de voter, et que c'était hyper important, enfin voilà. Et puis à cette élection-là, il y avait énormément de candidats, et donc moi je me rappelle avoir été très contente de pouvoir choisir, de comprendre pas grand-chose sur les prospectus, mais de me dire, bah tiens, j'avais voté Taubira, j'avais trouvé cool à l'époque. et puis bam, deuxième tour, enfin le soir du premier tour, tu vois, Le Pen est vraiment pas du tout, enfin ça a été un très très gros choc. Et donc moi j'étais en banlieue parisienne, bien sûr qu'on est allé aux manifs avec les copines. Il y avait celle du 1er mai, mais il y avait avant le 1er mai, il y a eu après le 1er mai, et on y était beaucoup. Et puis de toute façon, avant, au lycée, il y avait eu beaucoup de manifs aussi. Enfin, en gros, moi, j'ai fait beaucoup de manifs avant cette histoire-là, après cette histoire-là. Et je trouvais ça chouette, enfin, de relier l'histoire de à quoi tu dis non en groupe, à quoi il est facile de dire non, voilà, avec les copines et les copains. On allait en manif, on disait non à plein de choses. Et c'était très clair, très évident. Et à côté de ça, quand j'ai lu pas mal de choses sur la question du groupe... Il y avait quelque chose de très évident par rapport à le groupe d'amis. Qu'est-ce qui constitue ton groupe d'amis et quelles sont les règles tacites que tu te donnes dans ce groupe d'amis et qui vont faire que cette personne-là, elle fait pas trop partie de ton groupe, quoi, et que tu as plutôt envie qu'elle dégage, et comment tu la fais dégager plus ou moins violemment. Et je crois que c'est le propre de l'humain, malheureusement. Et j'ai voulu un peu mettre en lumière ces deux choses-là, quoi. Comment il est facile de dire non quand t'es dehors dans la rue avec une banderole. Comment, quand t'es dans un groupe, il est difficile de dire non une fois que la majorité du groupe a dit qu'on allait envoyer des fumigènes ou se foutre de la gueule de quelqu'un, enfin qu'on allait exclure cette personne. Comment t'arrives même plus à faire forcément fonctionner ton cerveau, parce que finalement, ça te rassure. Tu t'es dans un groupe, t'as des règles, au moins tu connais ton rôle, tu sais où t'es protégé par le groupe. Et comment le groupe, il peut être à la fois hyper vecteur de ton épanouissement et puis de joie, et comment à la fois ce groupe, si t'y fais pas gaffe, il peut venir te faire faire des choses que si tu fais un pas en arrière, tu te rends compte que peut-être tu l'aurais pas fait. Et je veux croire que la politique, alors, du Front National à l'époque, mais qui est une politique maintenant qui gagne du terrain jusqu'au... Même dans la gauche, on peut entendre ce genre d'idée, de se dire que finalement, il y aurait un groupe de Français. Ça, c'est la ronde des Français. Et puis, quand t'es pas né ici ou quand tu travailles pas en tant que Français, ben, t'as rien à foutre là, ce serait mieux que tu dégages et on va mettre des lois et des règles qui vont interdire ça et faire penser une majorité de gens que ça, ce serait bien que ces gens-là y dégagent. Et moi, je trouve que c'est d'une extrême violence. Et évidemment que j'aimerais bien pouvoir mettre ma petite pierre à l'édifice de comment on réfléchit collectivement à ouvrir cette ronde et ne pas exclure des gens, ne pas faire souffrir des gens inutilement. Comment on est le plus inclusif possible? Comment on essaye de construire une société des plus inclusives?
Comment ça se fait qu'une pièce d'art, une pièce de théâtre d'art de rue se retrouve en format livre? C'est pas trop compliqué à faire? C'est la première fois que je vois ça.
Bah si, ça a été du gros boulot. Ça a été des longs mois. Après, c'était une envie... c'est une vraie envie de se dire... comme on existe et qu'on défend aussi une écriture particulière, une spécificité dans l'écriture, nous, on défend vraiment ça avec Cécile. Et dans Vivant et dans notre spectacle précédent, nous, les oiseaux aussi. On trouvait que c'était aussi une manière de dire... Ouais, mais ça en fait pas moins de la littérature, ça en fait pas moins une œuvre. Et on aime bien l'idée qu'il y ait une trace. Donc d'où l'écriture au sol, et d'où le fait de pouvoir se procurer le bouquin. Et donc tout ça, c'est des petites traces après que tu repars avec dans ta bibliothèque. Mais c'est aussi une manière de dire non, l'art de rue, c'est pas un sous-art. Non, c'est un art comme tous les autres arts. C'est énormément de travail, c'est énormément d'abnégation, c'est beaucoup de boulot. Et je sais pas, pour nous, c'est une manière aussi de dire on existe en tant que forme qui vaut un bouquin. Et donc, oui, ça a été beaucoup de boulot, surtout de se dire qu'est-ce qu'on met dans les didascalies? Comment on partage le voyage? Justement, comment on n'en met pas des caisses, parce que ça devient imbuvable si tu mets beaucoup trop de lignes de didascalie qui dit « on passe par là et ça ressemble à ça et parce que nous on en aurait des tonnes à dire et nous on a choisi ce cadre et donc elle va pas au-delà de la porte rouge et pas au-delà de la porte blanche et elle regarde pas au-delà du deuxième étage pour guider notre regard. » Bon bah non, ça du coup on l'a pas marqué parce qu'on s'est dit trop technique, trop compliqué, mais on s'est mis dans un endroit particulier où on avait joué, un seul, et on s'est dit, voilà, on va se demander dans cet endroit-là quels petits éléments on va donner pour que le lecteur, si jamais il ne l'a pas vu, si ça tombe sur des gens qui ne l'ont pas vu, il puisse quand même se projeter dans « je suis en train d'avancer derrière Lou qui a un carton, il y a des cartons dans lesquels il y a du son, j'entends ça dans les cartons », voilà. Et on a rajouté après un petit flash code avec les musiques du spectacle. Du coup, dans le texte, il y a marqué qu'il y a telle ou telle musique. Enfin, du coup, je savais pas avant, mais on met quand même qu'il y a telle musique. Et dans le petit SoundCloud où tu arrives, moi j'ai marqué où est-ce que c'est exactement dans le spectacle. Comme ça, je me dis, je sais pas si les gens le font, mais je me dis si jamais il y en a qui veulent vraiment se taper un kiff, ils peuvent vraiment mettre play chaque fois qu'ils savent dans quelle déambulation ils sont.
Ben, merci beaucoup pour cet échange et au plaisir de vous revoir en Lozère pour un prochain spectacle peut-être.
Au plaisir.
Oui, on est en train d'en créer un nouveau alors peut-être, mais
voilà. Merci à toi.
Merci Léo, et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve le mercredi 7 juin avec l'équipe de la Ribambelle. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À mercredi, on se quitte avec un petit Nougaro. Tiens, ça fait pas de mal. À très vite. Ciao.
choc, un souffle barbare, un remous de rock, des lèvres au gare, j'ai changé d'époque, comment ça démarre sur les starting blocks. Je suis ad hoc, j'aurai le gros cigare, en or, les panchocs. C'est l'aérogare, j'ai senti le choc, pour rentrer dardard dans la ligne de coq. Un nouveau départ, solide comme un roc, une pluie de dollars. Ici, nous gaillons. Ici, superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfant de l'âne, c'est le falacoque. À moins que la star, au détour d'un bloc, et son pied égale. Façon jambon du rock.